Algériennes, une émission proposée par Abdelmadjid Chéri pour faire connaître les hommes qui ont fait l'Algérie par leur œuvre, leur lutte, leur souffrance et les événements qui ont donné à l'Algérie sa place dans l'histoire mondiale.
Chéri Abdelmadjid, nous avons vu dans les deux émissions précédentes consacrées à la colonisation et au grand mouvement de la colonisation, nous avons vu comment petit à petit ce phénomène s'est installé, qu'il s'est propagé, a pris de l'ampleur, nous a pris dans son ampleur, et comment les grands partages ont été faits, comment les puissances européennes se sont partagées le monde, comment ils l'ont occupé. Et là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément à la manière dont les Français se sont installés en Algérie et comment ils ont assis le système colonial, sur quelle base, sur quel type de valeurs ont-ils choisi de répandre et comment eux ont instrumentalisé, ont mis en place tout le système colonial.
Bien, si nous avions à définir le colonialisme, surtout en ce qui concerne l'Algérie. Parce que l'Algérie occupe une place à part, place tout à fait spéciale dans tous les systèmes coloniaux. Si nous avions à définir le colonialisme pour ce qui est de l'Algérie, nous pouvons dire que le colonialisme est la superposition de deux sociétés, une société autochtone et une société étrangère, sur un même territoire et pendant le même temps. Cette superposition a connu trois étapes. La première étape, c'est celle de la lutte de la société autochtone contre l'arrivée de la société, contre l'intrus, si on veut. Et cette lutte est une lutte à mort, parce que chacune des deux sociétés cherche à anéantir l'autre. Vient une deuxième étape, c'est celle de la coexistence, parce que la société autochtone n'a pas pu chasser l'intrus, et en même temps, cet intrus n'a pas pu éliminer la société autochtone. Donc, par la force des choses, les deux sociétés ont été amenées à coexister. Cette coexistence a connu des hauts et des bas, mais elle a eu ce résultat d'essayer de se connaître, d'essayer de s'accepter. La société autochtone, c'était uniquement pour reprendre son souffle, pour essayer de retrouver ses moyens de lutte, pour pouvoir la reprendre, cette lutte. L'autre société, c'était en se disant, puisque nous n'avons pas pu anéantir cette société, ben, il va falloir l'assimiler, il va falloir la maîtriser, essayer de la domestiquer. Vient alors la troisième phase, qui est la phase également violente, qui finit par donner raison à la société autochtone, qui finit par reprendre le dessus et donc chasser l'intrus. Voilà un peu dans quelles conditions la société coloniale, aussi bien pour le colonisé que pour le colonisateur, s'est installé dans ce pays, dans cette Algérie. Alors, quels ont été les moyens? Les moyens, à mon avis, il y en a eu quatre. Il y a eu le soldat, c'est-à-dire la violence. Il y a eu l'enseignant. Il y a eu le médecin. Et il y a eu le curé. Ce sont ces quatre facteurs, ce sont ces quatre éléments qui vont être utilisés parfois à tour de rôle, parfois en même temps, pour essayer de maîtriser cette société. Ici, j'aborde le problème de la colonisation sur son aspect sociologique et non pas sur son aspect politique. Parce que le plus grand aspect, c'est celui-là. Parce que c'est celui qui laisse des traces dans la société.
Donc ce type de relation de domination va d'être établi et les Français choisissent de manière délibérée d'établir cette relation entre leur monde, le monde du colonisateur au monde du colonisé, selon un schéma que vous déterminez comme étant le schéma du soldat, du médecin, du curé et de l'enseignant.
Oui, parce que l'aspect économique, qui est généralement le plus retenu, c'est celui qui est le plus discuté aussi. L'aspect économique, c'est finalement, il découle. C'est le résultat de cette lutte et de cette coexistence. C'est intégré, parce que la colonisation, si nous prenions la colonisation sur son aspect économique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement intégrer une économie dominée dans une économie dominante, tout simplement. C'est-à-dire, l'Algérie qui était indépendante en 1830 va se retrouver avec toute son économie dans le cadre d'une économie coloniale. C'est-à-dire que la puissance coloniale va se créer un espace économique qui est le sien.
Mais est-ce que c'était un espace parallèle dans un premier temps ou alors tout de suite la phagocytose s'est produite?
Non, elle s'est produite progressivement. Progressivement parce que la France en 1830 n'était pas une grande puissance coloniale. Il a fallu d'abord qu'elle aiguise ses armes, aussi bien sur le plan social que sur le plan économique que politique. Donc, et d'ailleurs c'est pour cela que sur le plan législatif, sur le plan des rapports entre sociétés, il y a eu des tâtonnements. Le système n'était pas où il est dès le départ.
Et des adaptations.
Il a fallu faire des adaptations, il a fallu faire des essais, il a fallu faire des approches. La société musulmane de ce temps-là était quelque chose d'inconnu pour la société européenne, parce qu'on a toujours considéré le monde de l'islam comme étant un monde à part.
Et est-ce qu'on peut définir la première partie de cette colonisation comme étant uniquement articulée autour du pillage, du délestage des richesses et de l'appropriation?
Ah bien sûr, jusqu'aux années 1870. Jusqu'aux années 1870, ce n'était que l'établissement de la colonisation. Donc l'établissement, ce qui veut dire l'anéantissement quand on peut, le parcage, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire le bannissement, le changement de population,
les déportations,
tout cela s'est fait pendant à peu près 40 ans. Ce n'est qu'à partir de 1870 et à partir de la défaite française vis-à-vis de la pendant sa guerre avec la Prusse contre Bismarck, c'est à partir de ce moment-là que l'on donne toute l'importance à ce qui va devenir le fleuron de la colonisation ou des colonies françaises.
Et est-ce que cette période-là est marquée par de nouvelles règles que le colonisateur met en place s'agissant de sa relation avec le colonisé?
Oui, bien sûr, parce que la période qui va jusqu'à 1860, c'est une période justement de négation, c'est j'allais dire d'inconsidération, d'oubli. On oublie qu'il y a une population dans ce pays. On oublie délibérément, il n'y a pas de population. Je peux vous citer, vous donner un exemple. Dans certaines régions de la Mitija, comme par exemple dans la ville de l'Erbaa, il était interdit à la société algérienne, c'est-à-dire aux citoyens algériens, de traverser la ville entre 10h du matin et 4h de l'après-midi. Parce qu'il faut que le colon ne voit pas l'Algérien. Donc il peut traverser la ville jusqu'à 10h du matin.
Un couvre-feu à l'envers.
Un couvre-feu à l'envers, parce que jusqu'à 10h, le colon est sur sa terre, mais à 10h, il va rentrer chez lui. Et c'est à ce moment-là qu'il peut sortir dans la ville. Il ne faut pas qu'il voie d'Algérien.
Et donc c'est aussi à cette période-là que correspond l'établissement des grands domaines coloniaux.
Oui, ils sont déjà établis. Ils sont déjà établis. Je ne parle pas de la très très grande colonisation qui va commencer à partir des années 1860 pour essayer de remercier les grandes banques qui ont avancé de l'argent pour la colonisation. Comme par exemple la Société Générale de crédit de banque suisse qui obtient 100 000 hectares d'un tenant, d'un seul tenant, dans la région de Sétif, 100 000 hectares d'un seul trait. Il n'y a que les routes qui partagent ce morceau de terrain en parcelles. Donc, et les exemples sont nombreux. Mais ce que je veux appuyer, c'est que à partir de ce moment-là, il y a une certaine, sous l'influence de Napoléon III, il y a un certain assouplissement. Parce qu'on revient vers justement cette politique d'acceptation de l'autre. Donc, sur le plan législatif, on va reconnaître aux tribus une certaine propriété collective. On va assouplir un peu les règles de l'acquisition de la propriété immobilière. On va également protéger, dans un certain sens, la propriété privée algérienne. Et là, il faudrait peut-être aussi apporter une précision quant à l'utilisation du mot « algérien ». On a tendance, dans les ouvrages d'histoire, quand on parle d'algérien, on parle non pas des enfants du pays, mais on parle des colons. Parce que quand on parle des colons, on dit les Algériens. Et quand on parle des Algériens, c'est-à-dire les Arabes, ou bien on dit les Arabes, ou bien on dit les musulmans.
Oui, oui.
Alors, donc, à partir de cette période-là, entrent en action les autres éléments, à savoir l'enseignant, le médecin, parce que le médecin va apporter sa médecine. Il va être en contact avec la population. D'abord, une population qui a été sérieusement éprouvée pendant les débuts de la colonisation jusqu'aux années 1870. Dans cette période-là, elle essayait par tous les moyens de ne pas avoir de contact avec le médecin, parce qu'elle avait sa propre médecine.
Mais c'était aussi une structure que l'on retrouvait même en France, c'est-à-dire qu'à partir de cette période-là, cette structure, on l'a retrouvée, en ce sens que on prend l'exemple d'un village en France, on avait le curé,
oui.
On avait le médecin, et on avait l'enseignant, qui oui. était l'expression de la notabilité.
Oui, oui. Mais ça c'est propre à toutes les sociétés. À toutes les sociétés de ces temps-là. Mm-hmm. Mais seulement, là où il y a la différence, c'est que...
Le soldat est passé avant ici.
D'abord, le soldat est passé avant, et puis les trois autres facteurs, les trois autres éléments, ne sont pas autochtones.
Ouais.
Ils sont étrangers.
Tout à fait.
Alors, le fait que la famille algérienne soit obligée, par nécessité, d'avoir recours au service du médecin. C'est le monde à l'envers. Parce que non seulement les préceptes de l'islam interdisent, surtout à la femme. Parce que la femme, c'est le dernier carré de résistance de la société algérienne. Et c'est elle qui va permettre la transmission de toute la culture et de tout le cette douceur de vivre qu'a connue la société algérienne, c'est elle qui va la transmettre. Donc, ce dernier carré de résistance va se trouver en face d'un problème énorme, le problème de la santé. Parce que l'arrivée des colons nous a rapporté des maladies. Si bien qu'une société qui était pratiquement saine s'est retrouvée en face de fléaux sociaux et d'une situation sanitaire catastrophique. Alors, le recours aux médecins va amener un nouveau comportement. De même que l'enseignant. On met entre parenthèses tout un enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de la langue arabe, l'enseignement de l'islam dans sa globalité, et pendant un temps, quand même de 40 ans, et puis on met sur pied où on continue à mettre sur pied l'école, mais d'une autre conception. École publique, tout ce que vous voulez, donc avec en enlevant tout ce qui peut avoir un caractère religieux, spirituel, etc. C'est l'école publique républicaine, même si c'est le Second Empire, mais elle reste avec les principes de 1789,
mais tout le
ce système... qui ne cadre pas avec la société algérienne.
Mais même en France, à cette époque-là, c'est à ce moment-là, au moment sous Napoléon III, que le système de l'école publique va se mettre en place.
Oui, et il donc sera officialisé et institutionnalisé par l'obligation scolaire sous Jules Ferry. Bon, mais cette société coloniale qui va s'articuler sur ces quatre éléments. Je ne parle pas du colon qui est l'essentiel, parce que à lui seul,
lui il intègre,
il regroupe tous ces quatre, parce que tout tourne autour de lui. La colonisation n'a pas sa raison d'être sans le colon. Or le colon, lui aussi, a besoin de l'enseignant, il a besoin du curé, il a besoin du soldat pour le protéger, etc. Donc voilà tout le système. Alors maintenant, vient dans cette phase de cohabitation, il faut jeter les ponts, non pas des ponts de sociabilité, si vous voulez, les ponts d'acceptation de l'autre, c'est-à-dire que de reconnaissance de l'autre. Non, il s'agit de jeter les ponts de la domination. Et cette domination ne peut être que, ne peut avoir de chance de réussir que si elle est institutionnelle, c'est-à-dire législative.
Codifiée. Et là, on en arrive au code de l'indigénat.
On en arrive à ce code de l'indigénat qui est la honte.
De l'humanité.
De l'humanité et de la Révolution française qui, quand même, est venue avec un certain nombre de principes qui tous ont été bafoués en Algérie. Alors, ce code de l'indigénat, qui sera le cheval de bataille des deux sociétés, l'une voulant l'instituer et l'aggraver, l'autre voulant s'en défaire à tout prix. Ce qui va amener certains Algériens du début du siècle qui ont été à l'école française, qui ont appris un certain nombre de principes universels reconnus par le monde entier, va amener ces Algériens à réfléchir à la condition de leurs concitoyens et à se dire finalement quel est le salut. Le salut ne peut être que dans la revendication des mêmes droits et des mêmes obligations. Le service militaire obligatoire ayant été institué en 1912, C'est peut-être l'occasion, selon ces Algériens-là, selon cette tendance, se sont dit, ben voilà, si nous donnons, si nous payons l'impôt du sang, si on veut, eh bien, nous serons peut-être acceptés, puisque nous aurons défendu l'État français, nous aurons versé notre sang pour lui, et il n'y a pas de sacrifice suprême plus que celui-là.
C'est-à-dire que l'on essayait de négocier en participant et en mettant en suspens le code de l'infamie.
Voilà, c'est-à-dire que puisque nous sommes des citoyens, enfin, nous sommes des êtres humains de second ordre, mais nous allons d'abord démontrer que nous sommes des êtres humains, et donc, capables de sentir le devoir, capables de se sacrifier pour des causes, et donc nous démontrons que nous sommes des êtres humains doux et dotés d'une raison et pouvant quand même faire la part des choses. Bon, ceci va amener naturellement une autre tendance, celle qui va dire non, attention, il n'y a aucune chance pour que la colonisation et le colonialisme établi selon ces préceptes-là et ce schéma-là, il n'y a aucune chance pour que des revendications aussi minimes soient-elles, puissent être acceptées et puissent être
puissent aboutir.
Et c'est l'autre tendance, la tendance nationale et nationaliste. Donc voilà sur quelle base s'est installée la doctrine coloniale dans ce pays. Reste maintenant peut-être à apporter une simple précision, parce que le sujet est non seulement vaste, mais intéressant, et il pourrait peut-être faire l'objet d'énormément de discussions, parce que cette doctrine et surtout son application en Algérie a fait que elle a fait couler beaucoup d'encre. Donc, reste peut-être une seule précision, c'est que la colonisation au départ, c'est-à-dire quand les troupes françaises sont arrivées à Sidi Frach. Et soit dit en passant, aujourd'hui, puisque nous enregistrons cette émission aujourd'hui, nous sommes le 14 juin, et c'est aujourd'hui qu'à 4 heures du matin, en 1830, les troupes françaises sont arrivées à Sidi Frach. Donc, à partir de ce moment-là, la colonisation a déployé son activité. Elle a trouvé un pays unifié. Elle a fait en sorte de le désarticuler. Elle l'a fait par la guerre. Elle l'a fait par l'économie, puisqu'elle a créé deux systèmes économiques, le secteur traditionnel et le secteur moderne, comme on l'a appelé, et qui est resté une appellation jusqu'à l'indépendance. Sur le plan social, il y a la classe des Européens, des colons, et il y a la classe des indigènes, avec tout le sens péjoratif que peut porter le mot indigène. Sur le plan social, sur le plan scolaire et sur le plan beaucoup plus général, les transferts de population, le déracinement, et s'attaquer également au fondement même de la société, qui sont la langue
et la religion.
Et la religion.
Et l'on a vu que l'une des principales revendications de l'ensemble des patriotes,
des populations,
cela a été d'abord la revendication essentielle de l'enseignement de l'arabe et du libre exercice du culte.
Exactement, parce que ce sont ces deux aspects-là qui donnent à l'Algérien sa spécificité face à cette société qui s'installe chez lui. S'il n'y avait pas ces deux facteurs, l'assimilation aurait été possible. Or, qu'a fait le... D'ailleurs, il l'a... En réalité, ça n'a pas commencé en Algérie, ce dont je vais parler tout de suite là. Cela a commencé au Maroc, en réalité. Parce que le problème qu'on a appelé le Dahir berbère au Maroc était fait dans un dessin tout à fait particulier, c'est-à-dire essayer de diviser la société et de créer une divergence là où il n'y en a pas. Les populations algériennes, les populations maghrébines ont vécu de tout temps sans qu'il y ait cette différence entre arabes et berbères. Eh bien, il a fallu que la politique française en Algérie, par l'activité quotidienne, soit théorisée par Lyoté au Maroc pour devenir un trait assez dominant de toutes les politiques coloniales établies dans le Maghreb, en Algérie, en Tunisie et au Maroc, mais plus particulièrement dans ces deux derniers pays, l'Algérie et le Maroc. Pour ce qui est de la Tunisie, le problème n'était pas aussi important, mais c'est, et d'ailleurs, si nous reprenons ce qu'écrivent les tenants de l'école coloniale, de la doctrine coloniale, les Louis Bertrand, etc., nous verrons des textes d'une aberration incroyable pour essayer d'amener une même population à s'insurger, ou une partie d'une population à s'insurger contre l'autre population dans le dessein de diviser pour régner. On amplifie certaines spécificités locales et sur le plan législatif, on reconnaît des statuts différents. Parce que c'est ça qui a amené justement des évolutions différentes.
C'est-à-dire, on partait du principe que, de toutes les manières, le code de l'indigénat était un statut injuste,
oui,
et subjectif. Donc, il y avait autant d'injustices qu'il pouvait y avoir.
Oui, mais on pouvait très bien, même dans ce cadre-là, même dans le cadre du code de l'indigénat, trouver adoucir parfois, ou aggraver, selon les circonstances.
Oui, oui.
Je vous donne un exemple, par exemple... Le principe de la responsabilité collective. Il suffisait qu'il y ait un incendie de forêt pour que le douar qui se trouve juste à côté paye une amende collective pour l'incendie de forêt. Mais la fixation du tarif, si vous voulez, était différente selon telle ou telle population. De même, l'implantation des curés. L'implantation des curés, si l'implantation est facile, cela donne un régime plus doux. Si l'implantation est très difficile, vous avez certaines régions d'Algérie qui n'ont jamais pu être pénétrées par les pères blancs, par exemple. Ben, ces zones-là ont toujours été considérées comme les plus récalcitrantes et considérées comme étant celles sur lesquelles doit s'abattre toute la foudre du code de l'indigénat. Il suffisait d'un rien pour vous faire bannir, pour vous faire envoyer à Cayenne ou en Nouvelle-Calédonie.